Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette seconde et dernière émission de juin 2009, nous poursuivrons ensemble la lecture de la Genèse. C'est donc avec plaisir que nous céderons la parole à notre sœur Monique Romans de la Fédération Spirit de la province de Liège, qui sera notre lectrice pour les mois à venir. En seconde partie de notre programme du jour, nous aurons le grand plaisir de répondre aux questions que vous avez bien voulu nous poser par courriel ou via notre répondeur téléphonique. Nous terminerons par divers communiqués de nos partenaires l'agenda des activités spirites programmées pour les prochains mois en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. À tous, nous vous souhaitons une bonne écoute. Sans plus attendre, nous cédons la parole à notre sœur Monique pour la suite du livre de la Genèse. Aujourd'hui, elle vous parlera du chapitre 1er traitant des caractères de la révélation spirite des points 51 à 53.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 1er, point 51. Les éléments de la révélation spirite ayant été donnés simultanément sur une multitude de points, à des hommes de toutes conditions sociales et de divers degrés d'instruction, il est bien évident que les observations ne pouvaient être faites partout avec le même fruit. Que les conséquences en tirées, la déduction des lois qui régissent cet ordre de phénomènes, en un mot, la conclusion qui devait asseoir les idées, ne pouvait sortir que de l'ensemble et de la corrélation des faits. Or, chaque centre isolé, circonscrit dans un cercle restreint, ne voyant, le plus souvent, qu'un ordre particulier de faits quelquefois en apparence contradictoire, n'ayant généralement affaire qu'à une même catégorie d'esprit et, de plus, entravé par les influences locales et l'esprit de parti, se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'embrasser l'ensemble et, par cela même, impuissant à rattacher les observations isolées un principe commun. Chacun appréciant les faits au point de vue de ses connaissances et de ses croyances antérieures, ou de l'opinion particulière des esprits qui se manifestent, il aurait eu bientôt autant de théories et de systèmes que de centres,
et dont aucun n'aurait pu être complet.
Faute d'éléments de comparaison et de contrôle. En un mot, chacun se serait immobilisé dans sa révélation partielle, croyant avoir toute la vérité, faute de savoir qu'en sans autres endroits, on obtenait plus ou mieux. Point 52. En outre, il est à remarquer que nulle part l'enseignement spirite n'a été donné d'une manière complète. Il touche à un si grand nombre d'observations, à des sujets si divers qui exigent soit des connaissances, soit des aptitudes médianimiques spéciales, qu'il eût été impossible de réunir sur un même point toutes les conditions nécessaires. L'enseignement devant être collectif et non individuel, les esprits ont divisé le travail en disséminant les sujets d'études et d'observations, comme dans certaines fabriques, la confection de chaque partie d'un même objet est répartie entre différents ouvriers. La révélation s'est ainsi faite partiellement en divers lieux et par une multitude d'intermédiaires, et c'est de cette manière qu'elle se poursuit encore en ce moment, car tout n'est pas révélé. Chaque centre trouve, dans les autres centres, le complément de ce qu'il obtient, et c'est l'ensemble, la coordination de tous les enseignements partiels qui ont constitué la doctrine spirite. Il était donc nécessaire de grouper les faits épars pour voir leur corrélation, de rassembler les documents divers, les instructions données par les esprits sur tous les points, sur tous les sujets, pour les comparer, les analyser, en étudier les analogies et les différences. Les communications étant données par des esprits de tous ordres, plus ou moins éclairés, il fallait apprécier le degré de confiance que la raison permettait de leur accorder, distinguer les idées systématiques individuelles et isolées de celles qui avaient la sanction de l'enseignement général des esprits, les utopies des idées pratiques. Élaguer celles qui étaient notoirement démenties par les données de la science positive et la saine logique. Utiliser également les erreurs, les renseignements fournis par les esprits, même du plus bas étage, pour la connaissance de l'état du monde invisible et en former un tout homogène. Il fallait, en un mot, un centre d'élaboration, indépendant de toute idée préconçue, de tout préjugé de secte, résolu d'accepter la vérité devenue évidente, dût-elle être contraire à ses opinions personnelles. Ce centre s'est formé de lui-même, par la force des choses et sans dessein prémédité. Remarque, le Livre des Esprits, le premier ouvrage qui ait fait entrer le spiritisme dans la voie philosophique par la déduction des conséquences morales des faits, qui ait abordé toutes les parties de la doctrine en touchant aux questions les plus importantes qu'elle soulève, a été, dès son apparition, le point de ralliement vers lequel ont spontanément convergé les travaux individuels. Il est de notoriété que de la publication de ce livre date l'ère du spiritisme philosophique, resté jusque-là dans le domaine des expériences de curiosité. Si ce livre a conquis les sympathies de la majorité, c'est qu'il était l'expression des sentiments de cette même majorité et qu'il répondait à ses aspirations. C'est aussi parce que chacun y trouvait la confirmation et une explication rationnelle de ce qu'il obtenait en particulier. S'il avait été en désaccord avec l'enseignement général des esprits, il n'aurait eu aucun crédit et serait promptement tombé dans l'oubli.
Or, à qui s'est-on rallié ?
Ce n'est pas à l'homme, qui n'est rien par lui-même, cheville ouvrière, qui meurt et disparaît, mais à l'idée qui ne périt pas quand elle émane d'une source supérieure à l'homme. Cette concentration spontanée des forces éparses a donné lieu à une correspondance immense, monument unique au monde, tableau vivant de la véritable histoire du spiritisme moderne, où se reflètent à la fois les travaux partiels, les sentiments multiples qu'a fait naître la doctrine, les résultats moraux, les dévouements et les défaillances. Archives précieuses pour la postérité, qui pourra juger les hommes et les choses sur des pièces authentiques, en présence de ces témoignages irrécusables que deviendront, dans la suite, toutes les fausses allégations, les diffamations de l'envie et de la jalousie. Fait de la remarque. Point 53. De cet état de choses, il est résulté un double courant d'idées, les unes allant des extrémités au centre, les autres retournant du centre à la circonférence. C'est ainsi que la doctrine a promptement marché vers l'unité, malgré la diversité des sources d'où elle est émanée. Que les systèmes divergents sont peu à peu tombés, par le fait de leur isolement, devant l'ascendant de l'opinion de la majorité, faute d'y trouver des échos sympathiques. Une communion de pensée s'est dès lors établie entre les différents centres partiels. Parlant la même langue spirituelle, ils se comprennent et sympathisent d'un bout du monde à l'autre. Les spirites se sont trouvés plus forts, ils ont lutté avec plus de courage, ils ont marché d'un pas plus assuré quand ils ne se sont plus vus isolés, quand ils ont senti un point d'appui, un lien qui les rattachait à la grande famille. Les phénomènes dont ils étaient témoins ne leur ont plus semblé étranges, anormaux, contradictoires, quand ils ont pu les rattacher à des lois générales d'harmonie. Embrasser d'un coup d'œil l'édifice et voir à tout cet ensemble un but grand et humanitaire. Remarque. Un témoignage significatif, aussi remarquable que touchant, de cette communion de pensée qui s'établit entre les spirites par la conformité des croyances, ce sont les demandes de prière qui nous viennent des contrées les plus lointaines, depuis le Pérou jusqu'aux extrémités de l'Asie, de la part de personnes de religion et de nationalités diverses, et que nous n'avons jamais vues. N'est-ce pas là le prélude de la grande unification qui se prépare? La preuve des racines sérieuses que prend partout le spiritisme?
Il est remarquable que, de tous les groupes qui se sont formés avec l'intention préméditée de faire scission en proclamant des principes divergents, de même que ceux qui, par des raisons d'amour propre ou autre, ne voulant pas avoir l'air de subir la loi commune, se sont crus assez forts pour marcher seuls, assez de lumière pour se passer de conseils. Aucun n'est parvenu à constituer une idée prépondérante et viable. Tous se sont éteints ou ont végété dans l'ombre. Comment pouvait-il en être autrement, dès lors que pour se distinguer, au lieu de s'efforcer de donner une plus grande somme de satisfaction, il rejetait des principes de la doctrine précisément, ce qui en fait le plus puissant attrait, ce qu'il y a de plus consolant, de plus encourageant et de plus rationnel. S'ils avaient compris la puissance des éléments moraux qui ont constitué l'unité, ils ne se seraient pas bercés d'une illusion chimérique, mais, prenant leur petit cercle pour l'univers, ils n'ont vu dans les adhérents qu'une coterie qui pouvait facilement être renversée par une contre-coterie. C'était se méprendre étrangement sur les caractères essentiels de la doctrine. Et cette erreur ne pouvait amener que des déceptions. Au lieu de rompre l'unité, ils ont brisé le seul lien qui pouvait leur donner la force et la vie. Voir Revue Spirit, avril 1866, pages 106 et 111. Le spiritisme sans les esprits, le spiritisme indépendant. Fait de la remarque. Mais comment savoir si un principe est enseigné partout, ou s'il n'est que le résultat d'une opinion individuelle? Les groupes isolés n'étant pas à même de savoir ce qui se dit ailleurs, il était nécessaire qu'un centre rassemblât toutes les instructions pour faire une sorte de dépouillement des voix et porter à la connaissance de tous l'opinion de la majorité. Remarque. Tel est l'objet de nos publications, qui peuvent être considérées comme le résultat de ce dépouillement. Toutes les opinions y sont discutées, mais les questions ne sont formulées en principe qu'après avoir reçu la consécration de tous les contrôles qui, seul, peut leur donner force de loi et permettre d'affirmer. Voilà pourquoi nous ne préconisons légèrement aucune théorie, et c'est en cela que la doctrine, procédant de l'enseignement général, n'est point le produit d'un système préconçu. C'est aussi ce qui fait sa force et assure son avenir. Fait de la remarque.
Nous poursuivons notre lecture du jour par le premier chapitre de la Genèse traitant des caractères de la révélation spirite du point 54 à 58.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 1er, point 54. Il n'est aucune science qui soit sortie de toute pièce du cerveau d'un homme. Toutes, sans exception, sont le produit d'observations successives, s'appuyant sur les observations précédentes, comme sur un point connu pour arriver à l'inconnu. C'est ainsi que les esprits ont procédé pour le spiritisme. C'est pourquoi leur enseignement est gradué. Ils n'abordent les questions qu'au fur et à mesure que les principes sur lesquels elles doivent s'appuyer sont suffisamment élaborés et que l'opinion est mûre pour se les assimiler. Il est même remarquable que toutes les fois que les centres particuliers ont voulu aborder des questions prématurées, ils n'ont obtenu que des réponses contradictoires, non concluantes. Quand au contraire, le moment favorable est venu, l'enseignement se généralise et s'unifie dans la presque universalité des centres. Il y a toutefois entre la marche du spiritisme et celle des sciences une différence capitale. C'est que celles-ci n'atteignent le point où elles sont arrivées qu'après de longs intervalles, tandis qu'il a suffi de quelques années au spiritisme, sinon pour atteindre le point culminant, du moins pour recueillir une somme d'observations, assez grande pour constituer une doctrine. Cela tient à la multitude innombrable d'esprits qui, par la volonté de Dieu, se sont manifestés simultanément, apportant chacun le contingent de ses connaissances. Il en est résulté que toutes les parties de la doctrine, au lieu d'être élaborées, successivement durant plusieurs siècles, l'ont été à peu près simultanément en quelques années, et qu'il a suffi de les grouper pour en former un tout. Dieu a voulu qu'il en fût ainsi, d'abord pour que l'édifice arrivât plus promptement au fait, en second lieu pour que l'on pût, par la comparaison, avoir un contrôle pour ainsi dire immédiat et permanent dans l'universalité de l'enseignement, chaque partie n'ayant de valeur et d'autorité que par sa connexité avec l'ensemble. Toutes devant s'harmoniser, trouver leur place dans le casier général, et arriver chacune en son temps. En ne confiant pas à un seul esprit le souhait de la promulgation de la doctrine, Dieu a voulu en outre que le plus petit, comme le plus grand, parmi les esprits comme parmi les hommes, apporta sa pierre à l'édifice, afin d'établir entre eux un lien de solidarité coopérative qui a manqué à toutes les doctrines sorties d'une source unique. D'un autre côté, chaque esprit, de même que chaque homme, n'ayant qu'une somme limitée de connaissances, individuellement, ils étaient inhabiles à traiter ex professo les innombrables questions auxquelles touche le spiritisme. Voilà également pourquoi la doctrine, pour remplir les vues du Créateur, ne pouvait être l'œuvre ni d'un seul esprit, ni d'un seul médium. Elle ne pouvait sortir que de la collectivité des travaux contrôlés les uns par les autres. Remarque, voir dans l'Évangile selon le spiritisme, introduction, page 6, et revue Spirit, avril 1864, page 90, autorité de la doctrine Spirit, contrôle universel de l'enseignement des esprits. Fin de la remarque. Point 55. Un dernier caractère de la révélation Spirit, et qui ressort des conditions, même dans lesquelles elle est faite, c'est que, s'appuyant sur des faits, elle est et ne peut être qu'essentiellement progressive, comme toutes les sciences d'observation. Par son essence, elle contracte alliance avec la science qui, étant l'exposé des lois de la nature dans un certain ordre des faits, ne peut être contraire à la volonté de Dieu, l'auteur de ces lois. Les découvertes de la science glorifient Dieu au lieu de l'abaisser. Elles ne détruisent que ce que les hommes ont bâti sur les idées fausses qu'ils se sont faites de Dieu. Le spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation. Touchant à toutes les branches de l'économie sociale auxquelles il prête l'appui de ses propres découvertes, il s'assimilera toujours toutes les doctrines progressives, de quelque ordre qu'elles soient, arrivées à l'état de vérité pratique et sorties du domaine de l'utopie. Sans cela, il se suiciderait. En cessant d'être ce qu'il est, il mentirait à son origine et à son but providentiel. Le spiritisme, marchant avec le progrès, ne sera jamais débordé parce que, si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. Remarque. Devant des déclarations aussi nettes et aussi catégoriques que celles qui sont contenues dans ce chapitre, tombent toutes les allégations de tendance à l'absolutisme et à l'autocratie des principes. Toutes les fausses assimilations que des gens prévenus ou mal informés prêtent à la doctrine. Ces déclarations, d'ailleurs, ne sont pas nouvelles. Nous les avons assez souvent répétées dans nos écrits pour ne laisser aucun doute à cet égard. Elles nous assignent, en outre, notre véritable rôle, le seul que nous ambitionnons, celui de travailleur. Fait de la remarque. Point 56. Quelle est l'utilité de la doctrine morale des esprits, puisqu'elle n'est autre que celle du Christ? L'homme a-t-il besoin d'une révélation, et ne peut-il trouver en lui-même tout ce qui lui est nécessaire pour se conduire? Au point de vue moral, Dieu a sans doute donné à l'homme un guide dans sa conscience qui lui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. » La morale naturelle est certainement inscrite dans le cœur des hommes. Mais tous savent-ils y lire? N'ont-ils jamais méconnu ces sages préceptes? Qu'ont-ils fait de la morale du Christ? Comment la pratiquent ceux-mêmes qui l'enseignent? N'est-elle pas devenue une lettre morte, une belle théorie, bonne pour les autres et non pour soi? Reprocherez-vous à un père de répéter 10 fois, 100 fois les mêmes instructions à ses enfants s'il n'en profite pas? Pourquoi Dieu ferait-il moins qu'un père de famille? Pourquoi n'enverrait-il pas de temps à autre parmi les hommes des messagers spéciaux chargés de les rappeler à leurs devoirs et de les remettre en bon chemin quand ils s'en écartent? D'ouvrir les yeux de l'intelligence à ceux qui les ont fermés, comme les hommes les plus avancés envoient des missionnaires chez les sauvages et les barbares? Les esprits n'enseignent pas d'autre morale que celle du Christ, par la raison qu'il n'y en a pas de meilleure. Mais alors, à quoi bon leur enseignement, puisqu'ils ne disent que ce que nous savons? On pourrait en dire autant de la morale du Christ, qui fut enseignée 500 ans avant lui par Socrate et Platon, et dans des termes presque identiques. De tous les moralistes qui répètent la même chose sur tous les tons et sous toutes les formes, eh bien, les esprits viennent tout simplement augmenter le nombre des moralistes, avec la différence que, se manifestant partout, ils se font entendre dans la chaumière aussi bien que dans le palais, aux ignorants comme aux gens instruits. Ce que l'enseignement des esprits ajoute à la morale du Christ, c'est la connaissance des principes qui relient les morts et les vivants, qui complète les notions vagues qu'il avait données de l'âme, de son passé, de son avenir, et qui donne pour sanction à sa doctrine les lois mêmes de la nature. À l'aide des nouvelles lumières apportées par le spiritisme et les esprits, l'homme comprend la solidarité qui relie tous les êtres. La charité et la fraternité deviennent une nécessité sociale. Il fait par conviction ce qu'il ne faisait que par devoir, et il le fait mieux. Lorsque les hommes pratiqueront la morale du Christ, alors seulement ils pourront dire qu'ils n'ont plus besoin de moralistes incarnés ou désincarnés, mais alors aussi Dieu ne leur en enverra plus. Point 57. Une des questions les plus importantes parmi celles qui sont posées en tête de ce chapitre est celle-ci. Quelle est l'autorité de la révélation spirite, puisqu'elle émane d'êtres dont les lumières sont bornées et qui ne sont pas infaillibles? L'objection serait sérieuse si cette révélation ne consistait que dans l'enseignement des esprits, si nous devions la tenir d'eux exclusivement et l'accepter les yeux fermés. Elle est sans valeur dès l'instant que l'homme y apporte le concours de son intelligence et de son jugement. Que les esprits se bornent à le mettre sur la voie des déductions qu'il peut tirer de l'observation des faits. Or, les manifestations et leurs innombrables variétés sont des faits. L'homme les étudie et en cherche la loi. Il est aidé dans ce travail par les esprits de tous ordres qui sont plutôt des collaborateurs que des révélateurs dans le sens usuel du mot. Il soumet leur dire au contrôle de la logique et du bon sens. De cette manière, ils bénéficient des connaissances spéciales qu'ils doivent à leur position, sans abdiquer l'usage de sa propre raison. Les esprits n'étant autres que les âmes des hommes, en communiquant avec eux, nous ne sortons pas de l'humanité, circonstance capitale à considérer. Les hommes de génie, qui ont été les flambeaux de l'humanité, sont donc sortis du monde des esprits, comme ils y sont rentrés en quittant la terre. Dès lors que les esprits peuvent se communiquer aux hommes, ces mêmes génies peuvent leur donner des instructions sous la forme spirituelle, comme ils l'ont fait sous la forme corporelle. Ils peuvent nous instruire après leur mort, comme ils le faisaient de leur vivant. Ils sont invisibles au lieu d'être visibles, voilà toute la différence. Leur expérience et leur savoir ne doivent pas être moindres, et si leur parole, comme homme, avait de l'autorité, elle n'en doit pas avoir moins parce qu'ils sont dans le monde des esprits. Point 58. Mais ce ne sont pas seulement les esprits supérieurs qui se manifestent. Ce sont aussi les esprits de tous ordres, et cela était nécessaire pour nous initier au véritable caractère du monde spirituel, en nous le montrant sous toutes ses faces. Par là, les relations entre le monde visible et le monde invisible sont plus intimes. La connexité est plus évidente. Nous voyons plus clairement d'où nous venons et où nous allons. Tel est le but essentiel de ces manifestations. Tous les esprits, à quelque degré qu'ils soient parvenus, nous apprennent donc quelque chose. Mais comme ils sont plus ou moins éclairés, c'est à nous de discerner ce qu'il y a en eux de bon ou de mauvais et de tirer le profit que comporte leur enseignement.
Or tous, quels qu'ils soient, peuvent nous apprendre ou nous révéler des choses que nous ignorons et que sans eux, nous ne saurions pas.
Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, vous êtes à l'écoute de Radio Kardec, première partie. Merci de bien vouloir rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Nous poursuivons ensemble la lecture de la Genèse, premier chapitre, des points 59 à 62.
La Genèse selon le spiritisme, chapitre 1er, point 59. Les grands esprits incarnés sont des individualités puissantes, sans contredit, mais dont l'action est restreinte et nécessairement lente à se propager. Qu'un seul d'entre eux, fût-il même Élie ou Moïse, Socrate ou Platon, soit venu en ces derniers temps révéler aux hommes l'état du monde spirituel, qui aurait prouvé la vérité de ses assertions par ce temps de scepticisme? Ne l'aurait-on pas regardé comme un rêveur ou un utopiste? En admettant qu'il fût dans le vrai absolu, des siècles se seraient écoulés avant que ses idées fussent acceptées par les masses. Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Il a voulu que l'enseignement fût donné par les esprits eux-mêmes et non par des incarnés, afin de convaincre de leur existence et qu'il eût lieu simultanément par toute la terre, soit pour le propager plus rapidement, soit pour que l'on trouvât dans la coïncidence de l'enseignement une preuve de la vérité, chacun ayant ainsi les moyens de se convaincre par soi-même. Point 60. Les esprits ne viennent pas affranchir l'homme du travail, de l'étude et des recherches. Ils ne lui apportent aucune science toute faite. Sur ce qu'il peut trouver lui-même, il le laisse à ses propres forces. C'est ce que savent parfaitement aujourd'hui les spirites. Depuis longtemps, l'expérience a démontré l'erreur de l'opinion qui attribuait aux esprits tout savoir et toute sagesse, et qu'il suffisait de s'adresser au premier esprit venu pour connaître toute chose. Sortis de l'humanité, les esprits en sont une des faces. Comme sur la terre, il y en a de supérieurs et de vulgaires. Beaucoup en savent donc scientifiquement et philosophiquement moins que certains hommes. Ils disent ce qu'ils savent, ni plus ni moins. Comme parmi les hommes, les plus avancés peuvent nous renseigner sur plus de choses, nous donner des avis plus judicieux que les arriérés. Demander des conseils aux esprits, ce n'est point s'adresser à des puissances surnaturelles, mais à ses pareils, à ceux même à qui on se serait adressé de leur vivant, à ses parents, à ses amis ou à des individus plus éclairés que nous. Voilà ce dont il importe de se persuader et ce qu'ignorent ceux qui, n'ayant pas étudié le spiritisme, se font une idée complètement fausse sur la nature du monde des esprits et des relations d'outre-tombe. Point 61. Quelle est donc l'utilité de ces manifestations, ou si l'on veut de cette révélation, si les esprits n'en savent pas plus que nous, ou s'ils ne nous disent pas tout ce qu'ils savent? D'abord, comme nous l'avons dit, ils s'abstiennent de nous donner ce que nous pouvons acquérir par le travail. En second lieu, il est des choses qu'il ne leur est pas permis de révéler, parce que notre degré d'avancement ne le comporte pas. Mais cela à part, les conditions de leur nouvelle existence étendent le cercle de leur perception. Ils voient ce qu'ils ne voyaient pas sur la terre. Affranchis des entraves de la matière, délivrés des soucis de la vie corporelle, ils jugent les choses d'un point plus élevé, et par cela même plus sainement. Leur perspicacité embrasse un horizon plus vaste. Ils comprennent leurs erreurs, rectifient leurs idées et se débarrassent des préjugés humains. C'est en cela que consiste la supériorité des esprits sur l'humanité corporelle, et que leurs conseils peuvent être, eu égard à leur degré d'avancement, plus judicieux et plus désintéressés que ceux des incarnés. Le milieu dans lequel ils se trouvent leur permet en outre de nous initier aux choses de la vie future que nous ignorons et que nous ne pouvons apprendre dans celui où nous sommes. Jusqu'à ce jour, l'homme n'avait créé que des hypothèses sur son avenir. Voilà pourquoi ses croyances sur ce point ont été partagées en systèmes si nombreux et si divergents,
depuis le néantisme jusqu'aux fantastiques conceptions de l'enfer et du paradis. Aujourd'hui, ce sont les témoins oculaires, les acteurs mêmes de la vie d'outre-tombe, qui viennent nous dire ce qu'il en est, et qui seuls pouvaient le faire. Ces manifestations ont donc servi à nous faire connaître le monde invisible qui nous entoure et que nous ne soupçonnions pas. Et cette connaissance seule serait d'une importance capitale en supposant que les esprits fussent incapables de rien nous apprendre de plus. Si vous allez dans un pays nouveau pour vous, rejeterez-vous les renseignements du plus humble paysan que vous rencontrerez? Refuserez-vous de l'interroger sur l'état de la route parce que ce n'est qu'un paysan? Vous n'attendrez certainement pas de lui des éclaircissements d'une très haute portée, mais tel qu'il est dans sa sphère, il pourra, sur certains points, vous renseigner mieux qu'un savant qui ne connaîtrait pas le pays. Vous tirerez de ses indications des conséquences qu'il ne pourrait tirer lui-même, mais il n'en aura pas moins été un instrument utile pour vos observations. N'eût-il servi qu'à vous faire connaître les mœurs des paysans? Il en est de même des rapports avec les esprits, où le plus petit peut servir à nous apprendre quelque chose. Point 62. Une comparaison vulgaire fera encore mieux comprendre la situation. Un navire chargé d'émigrants part pour une destination lointaine. Il emporte des hommes de toutes conditions, des parents et des amis de ceux qui restent. On apprend que ce navire a fait naufrage. Nulle trace n'en est restée. Aucune nouvelle n'est parvenue sur son sort. On pense que tous les voyageurs ont péri, et le deuil est dans toutes les familles. Cependant, l'équipage tout entier, sans en excepter un seul homme, a abordé une terre inconnue, abondante et fertile, où tous vivent heureux sous un ciel clément. Mais on l'ignore. Or, voilà qu'un jour, un autre navire aborde cette terre. Il y trouve tous les naufragés sains et saufs. L'heureuse nouvelle se répand avec la rapidité de l'éclair. Chacun se dit « Nos amis ne sont point perdus et ils en rendent grâce à Dieu. Ils ne peuvent se voir, mais ils correspondent, ils échangent des témoignages d'affection et voilà que la joie succède à la tristesse. » Telle est l'image de la vie terrestre et de la vie d'outre-tombe, avant et après la révélation moderne. Celle-ci, semblable au second navire, nous apporte la bonne nouvelle de la survivance de ceux qui nous sont chers et la certitude de les rejoindre un jour. Le doute sur leur sort et sur le nôtre n'existe plus. Le découragement s'efface devant l'espérance. Mais d'autres résultats viennent féconder cette révélation. Dieu, jugeant l'humanité mûre pour pénétrer le mystère de sa destinée et contempler de sang-froid de nouvelles merveilles, a permis que le voile qui séparait le monde visible du monde invisible fût levé. Le fait des manifestations n'a rien d'extra-humain. C'est l'humanité spirituelle qui vient causer avec l'humanité corporelle et lui dire « Nous existons, donc le néant n'existe pas. Voilà ce que nous sommes et voilà ce que vous serez. L'avenir est à vous comme il est à nous. Vous marchiez dans les ténèbres, nous venons éclairer votre route et vous frayez la voie. Vous alliez au hasard, nous vous montrons le but. La vie terrestre était tout pour vous, parce que vous ne voyez rien au-delà. Nous venons vous dire, en vous montrant la vie spirituelle, la vie terrestre n'est rien. Votre vue s'arrêtait à la tombe. Nous vous montrons au-delà un horizon splendide. Vous ne saviez pas pourquoi vous souffrez sur la terre. Maintenant, dans la souffrance, vous voyez la justice de Dieu. Le bien était sans fruit apparent pour l'avenir. Il aura désormais un but et sera une nécessité. La fraternité n'était qu'une belle théorie. Elle est maintenant assise sur une loi de la nature. Sous l'empire de la croyance que tout finit avec la vie, l'immensité est vide. L'égoïsme règne en maître parmi vous, et votre mot d'ordre est « chacun pour soi ». Avec la certitude de l'avenir, les espaces infinis se peuplent à l'infini. Le vide et la solitude ne sont nulle part. La solidarité relie tous les êtres par-delà et en deçà de la tombe. C'est le règne de la charité avec la devise « chacun pour tous,
et tous pour chacun. Enfin, au terme de la vie, vous disiez un éternel adieu à ceux qui vous sont chers. Maintenant, vous leur direz « Au revoir !» Tels sont, en résumé, les résultats de la révélation nouvelle. Elle est venue combler le vide creusé par l'incrédulité, relever les courages abattus par le doute ou la perspective du néant, et donner à toute chose sa raison d'être. Ce résultat est-il donc sans importance, parce que les esprits ne viennent pas résoudre les problèmes de la science, donner le savoir aux ignorants et aux paresseux les moyens de s'enrichir sans peine? Cependant, les fruits que l'homme doit en retirer ne sont pas seulement pour la vie future. Il en jouira sur la terre par la transformation que ces nouvelles croyances doivent nécessairement opérer sur son caractère, ses goûts, ses tendances et par suite sur les habitudes et les relations sociales. En mettant fin au règne de l'égoïsme, de l'orgueil et de l'incrédulité, elle prépare celui du bien, qui est le règne de Dieu annoncé par le Christ. Remarque. L'emploi de l'article avant le mot « Christ », du mot grec « Christos », employé dans un sens absolu, est plus correct, attendu que ce mot n'est pas le nom du Messie de Nazareth, mais une qualité prise substantivement. On dira donc « Jésus était Christ ». Il était le Christ annoncé, la mort du Christ et non de Christ, tandis qu'on dit « la mort de Jésus et non du Jésus ». Dans Jésus-Christ, les deux mots réunis forment un seul nom propre. C'est par la même raison qu'on dit le Bouddha Gautama, acquis la dignité de Bouddha par ses vertus et ses austérités. La vie du Bouddha, comme on dit, l'armée du Pharaon et non de Pharaon. Henri IV était roi, le titre de roi, l'amour du roi et non de roi. Fin de la remarque.
Nous voici arrivés à la seconde partie de cette émission, celle où nous répondons avec grand plaisir aux questions que vous avez bien voulu nous poser par courriel ou notre répondeur téléphonique.
Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Nous allons, comme à l'accoutumée, apporter des réponses aux questions que vous avez bien voulu nous poser. Commençons par celle-ci. Dans l'autre monde, existe-t-il une cohabitation harmonieuse entre musulmans, chrétiens et autres? D'après ce qu'André Louis a pu faire comprendre dans ses descriptions du monde spirituel, dans l'ensemble, nous nous retrouvons dans des zones de même culture que la nôtre, ce qui évite des complications lors de nos sorties du trouble qui accompagnent la désincarnation. L'examen de conscience qui en résulte se fait à partir de la culture qui nous est propre, et nous retrouvons les amis et les ennemis, où la compréhension culturelle facilite accompagnement de progrès et de réparation. Tout cela se conçoit aisément. Il est un exemple bien connu au Brésil, démontrant qu'il existe aussi d'autres possibilités. Lors de la Révolution française, où il y eut de nombreuses scènes de massacres, la loi de causalité devant laisser du temps et de l'espace, afin que ces réparations deviennent possibles, de nombreux responsables révolutionnaires se réincarnèrent au Brésil, ayant à participer au progrès de cette région dans des conditions difficiles. Le monde spirituel est aussi un lieu d'enseignement où nous trouvons des esprits élevés qui orientent et conseillent entre deux incarnations pour faire évoluer la spiritualité d'une manière convergente. La doctrine spirite est arrivée pour donner la raison de cette incarnation. Cela ne retire rien à ce qui est l'essence des religions, la notion du Dieu créateur et de l'amour qui doit unir les hommes de bonne volonté. Et c'est pour cela que le spiritisme est religieux sans être une religion dogmatique. L'enseignement du monde spirituel élevé est dans le sens de l'universalité, mais je dirais à dose homéopathique, de manière à ne pas froisser les consciences. Voyons maintenant cette question très importante. En quoi nos pensées et nos paroles ont-elles une incidence sur les conditions de vie de l'âme dépouillée de son corps physique. Voyons tout d'abord l'incidence de nos pensées sur les âmes des désincarnés en cours de se reconnaître dans le monde spirituel. André Luis, dans Les Messagers, fait dire à Alonso, désincarné il y a peu, « Je reconnais l'opportunité de vos observations. Grâce à Jésus, ma vie mentale s'améliore par les devoirs qui m'ont été attribués. Et de fait, je me sens spirituellement rénové. Mais j'ose demander l'autorisation de rendre visite à mon épouse et à mes enfants. Le soir, quand je me recueille pour mes prières habituelles, je sens autour de moi leurs pensées. Ces pensées me pénètrent profondément, attirant toute mon attention vers la terre. Parfois, j'arrive à me reposer un peu, mais avec difficulté. Je sais qu'ils m'appellent douloureusement. Cette certitude me perturbe et je ne me sens plus la même fermeté pour le travail journalier. Ainsi, j'aimerais bien remédier à la situation. Je reconnais que mes obligations à présent sont différentes et que je dois me résigner. Mais j'avoue que ma lutte spirituelle est énorme. Je suis certain que vous me pardonnerez ma faiblesse. Quel chef de famille ne se sentirait pas tourmenté en entendant les angoissants appels provenant de son foyer sans avoir les moyens d'y répondre comme il le devrait ? Révélant la grande préoccupation de son âme, il essuya ses yeux et continua. « Je voudrais les supplier d'être calmes et courageux, leur dire que mon cœur est encore fragile et a besoin de leur soutien. J'aimerais leur demander cette aide pour que je puisse me livrer à mes obligations actuelles sans défaillance. » Nous voyons là le lien qui existe encore entre les pensées des désincarnés et les pensées des incarnés. Dans Libération, André Luis nous confirme les conséquences de nos actes, paroles et pensées, sur la situation réelle et notre état dans le monde spirituel. Il dit à son instructeur spirituel : Je me souviens alors du livre dans lequel Oscar Wilde nous conte l'histoire du portrait de Dorian Gray, qui acquit une horrible expression au fur et à mesure que le propriétaire se modifiait intérieurement dans la pratique du mal, et après que j'eus adressé un regard interrogateur à Maurizio, je reçus de ce dernier une explication pleine de bon sens. « Oui, mon ami, dit-il avec tolérance, l'imagination de Wilde n'a rien inventé. Avec leurs pensées, leurs attitudes, leurs paroles et leurs actes, l'homme et la femme créent intérieurement la véritable apparence spirituelle qui les représente. Chaque crime, chaque chute laisse des tares et des traces horribles dans le domaine de l'âme. De la même manière que chaque action généreuse et chaque pensée supérieure ajoutent beauté et perfection à la forme périsprestale à l'intérieur de laquelle l'individu réel se manifeste, principalement après la mort du corps dense. Il y a des créatures belles et admirables dans la chair qui, au fond, sont de véritables monstruosités mentales, comme il y a des corps torturés et méprisés dans le monde qui cachent des esprits angéliques à la beauté céleste. Voyons maintenant cette autre question. Comment peut-on revoir les personnes décédées ? Revoir les décédés ne dépend pas de nous, à moins d'être un médium voyant, c'est-à-dire qui voit les esprits. Il faut déjà que le désincarné accepte, et comme il n'est pas sans occupation dans le monde spirituel, il faut qu'il soit disponible. Il faut surtout que les guides rendent cela possible. Car, telle que la question est posée, il s'agit d'un rendez-vous que l'on demande. Il faut donc que nous soyons préparés pour une extériorisation de notre corps afin de réaliser cette rencontre dans le monde spirituel. Les guides les organise très souvent la nuit, quand le corps est au repos, et il nous arrive parfois d'en garder le souvenir. André Louis en décrit de nombreux cas. Il nous arrive aussi souvent de ressentir des présences autour de nous, qui nous confirment que les esprits familiers viennent quelquefois nous rendre visite pour nous assister dans nos périodes difficiles. Le monde spirituel est en permanence auprès de nous, mais nous ne le rencontrons vraiment que lorsqu'il y a une utilité pour notre enseignement. Il y aurait aussi la possibilité que l'esprit se matérialise, mais ces cas sont rares et nécessitent une organisation spirituelle spéciale, laissant cette possibilité à un autre type d'enseignement, la preuve de la survivance de l'esprit après la mort. Nous pouvons comprendre l'envie de revoir un disparu aimé, mais rappelons-nous que celui-ci ressent celui qui l'appelle, beaucoup plus que nous ne le ressentons. Alors, c'est avec amour que nous devons le faire, conscient que les souffrances n'existent plus dans son état, et que le plus souvent, celui qui est à consoler et à fortifier, c'est celui qui est encore incarné. Et maintenant, cette dernière question. Qu'en est-il de la rédemption enseignée par l'Église par rapport à l'idée spirite ? Pour l'Église, la rédemption est associée au Christ rédempteur, celui qui a racheté nos fautes par son sacrifice. Il est considéré pour cela comme le sauveur des hommes. Mais cela est devenu le mystère de la rédemption, laissant entendre qu'on ne sait pas vraiment comment cela se passe. Pour certains même, cela peut déculpabiliser puisque nos fautes sont pardonnées. Pour les spirites, le Christ est le sauveur des hommes par son message « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Son sacrifice est le témoignage de sa parole et il est revenu pour la compléter en tant qu'esprit de vérité apportant la doctrine des esprits au codificateur Allan Kardec. Son royaume n'est pas de ce monde, et pour y parvenir, il nous montre le chemin. Il nous parle d'un divin Père qui a toutes les perfections, y compris de justice avec la loi de causalité. Pour les spirites, le Christ est l'exemple et le guide, la notion de perfection à atteindre ici-bas. Chers auditeurs, à bientôt sur Radio Kardec.
Nous voici arrivés à la séquence réservée aux communiqués de nos divers partenaires. Cette année, la Société d'études psychiques de Nancy organise une journée spéciale autour du thème de l'après-mort. Elle aura lieu le dimanche 27 septembre 2009 à la salle Rograff, 13 rue des Ponts à Nancy, de 9h à 18h. La participation aux frais sera de 15 euros. Pour renseignements et réservations, merci de bien vouloir prendre contact par téléphone en formant depuis la France le 03 83 00 00 00 ou via le site www.sepnancy.org. Deuxième congrès francophone de médecine et spiritualité à Toulouse. La dernière décennie a été marquée par l'émergence de la spiritualité. L'intérêt du corps médical pour cette thématique amène aujourd'hui de nouvelles recherches dont les objectifs sont de déterminer la place de la spiritualité dans le traitement du patient et le résultat de son implication dans les soins. À la lumière de ces nouveaux développements, le mouvement Spirit francophone et l'Association internationale des médecins spirites ont décidé d'organiser le deuxième congrès francophone de médecine et spiritualité les 24 et 25 octobre 2009 à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, en France. Ils ont donc le plaisir de vous inviter à y assister. Ce congrès sera l'occasion d'établir un échange professionnel de savoir et de compétences en explorant la possibilité de la présence de la dimension spirituelle dans le domaine des soins médicaux d'aujourd'hui et de demain. Le thème de ce congrès est inspiré de l'approche spirit de la médecine, largement pratiquée au Brésil aujourd'hui. Le spiritisme est basé sur une philosophie établie il y a 150 ans par Allan Kardec, philosophe français, qui a étudié les phénomènes spirituels et ses implications dans la vie des hommes. Au Brésil, il tient une place importante puisqu'environ 20 millions de personnes connaissent cet enseignement. À l'heure actuelle, il y a 80 hôpitaux spirites répartis dans les plus grandes villes brésiliennes. La plupart d'entre eux sont d'ailleurs reconnus par le service brésilien des soins de santé. L'intégration du modèle spirit de traitement mené en collaboration avec la médecine conventionnelle inclut des traitements tels que les soins spirituels, l'homéopathie, l'ergothérapie, ainsi que des réunions régulières entre la famille, le patient et le médecin. Ce paradigme holistique de traitement basé sur une vue biologique, psychologique, sociale et spirituelle combinée au patient a obtenu des résultats sans précédent. Plus de 400 personnes sont attendues pour ce congrès. Les discussions tourneront autour de la pertinence de tenir compte ou non, dans les soins médicaux, de la réalité spirituelle qui fait de nous des êtres humains. La contribution d'orateurs de renommée internationale venant de différents pays enrichira le programme et fournira une diversité de perspectives sur cette question si importante. Pour tout renseignement et réservation, merci de bien vouloir consulter le site du congrès www.congres.lmsf.org. Nous voici arrivés à la troisième et dernière partie de cette émission. Celle-ci est, comme vous le savez déjà, traditionnellement réservée à l'agenda des activités en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. Cette émission est une émission de type charnière, c'est-à-dire qu'elle nous permet de basculer dans la période estivale et nous n'avons aucune information de disponible pour les mois de juillet et août, qui en général est synonyme de vacances et de fermeture pour les centres spirites francophones, ou tout du moins pour les trois pays susnommés. Il serait donc intéressant pour vous de consulter les divers sites nationaux afin de savoir si tel ou tel centre organise ou non des activités pendant cette période. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège, ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.